Chapitre 58. Où est mon mari ? Incarcéré à la maison d'arrêt d'Évreux, répond Silvio Benavides. Ne vous inquiétez pas, Madame Dupin. Il s'agit simplement d'une inculpation. Le juge d'instruction va tout reprendre. Stéphanie Dupin fixe tour à tour les deux hommes qui lui font face. Les inspecteurs Silvio Benavides et Lorenz Serenac. Elle crie plus qu'elle ne parle.
Vous n'avez pas le droit !
Serenac lève les yeux au mur du bureau et s'attarde sur l'étoile accrochée. Son regard se perd dans les méandres des jeux de lumière du dos nu de la femme rousse brossée par Toulouse-Lautrec. Il laisse Silvio répondre. Son adjoint le fera d'autant mieux qu'il cherchera à se persuader lui-même. Madame Dupin, il faut voir la réalité en face. L'accumulation d'indices convergents qui accusent votre mari. Tout d'abord, cette paire de bottes disparues.
On les lui a volées.
Cette boîte de peinture retrouvée sur la scène du crime, continue Benavides, impassible. Des menaces gravées à l'intérieur, rédigées de la main de votre mari. La plupart des experts le confirment. L'argument a ébranlé Stéphanie Dupin. Elle découvre apparemment cette histoire de boîte de peinture et semble puiser dans les ombres de sa mémoire. Elle aussi tourne la tête et détaille les posters fixés au mur. Elle se fige de longues secondes sur la reproduction de l'arlequin de Cézanne, coiffé de son chapeau de lune, comme pour rechercher dans son visage sans lèvres la force de refuser de céder.
J'ai dû me promener avec Jérôme Morval deux fois, peut-être trois. Nous avons simplement discuté. Le geste le plus osé qu'il ait tenté a consisté à me prendre la main. J'ai clarifié la situation. Je ne l'ai jamais revu seul. D'ailleurs, Patricia Morval, qui est une amie d'enfance, vous le confirmera. Inspecteur, tout cela est ridicule. Vous n'avez pas de mobile. Votre mari n'a pas d'alibi.
C'est Lorenz Serenac qui a répondu cette fois, du tac au tac, devançant les longues explications de Silvio. Stéphanie hésite un long moment. Depuis le début de l'entretien, Lorenz évite de croiser son regard. Elle tousse, crispe ses deux mains le long de sa jupe, puis glisse d'une voix blanche. « Mon mari n'a pas pu assassiner Jérôme Morval. Ce matin-là, il dormait avec moi. » Les inspecteurs Benavides et Serenac se figent dans la même attitude hébétée. Benavides reste une main en l'air, celle qui tient son stylo. Serenac garde le coude sur le bureau et la paume ouverte, supportant le poids d'un menton mal rasé et d'une tête soudain trop lourde. Un silence de musée s'abat sur le bureau 33. Stéphanie décide de pousser l'avantage plus loin encore. « Si vous souhaitez davantage de détails, inspecteur, Jacques et moi avons fait l'amour ce matin-là, à mon initiative. Je veux un enfant. Nous couchions ensemble le matin où Jérôme Morval a été assassiné. Il est matériellement impossible que mon mari soit coupable. » Serenac s'est levé. La réponse claque. « Stéphanie, vous m'avez dit le contraire il y a quelques jours. Vous m'avez affirmé que votre mari était parti à la chasse, comme tous les mardis matins.
J'ai réfléchi depuis. J'étais troublée alors. Je me suis trompée de jour. »
Silvio Benavides se lève à son tour et prend l'initiative de soutenir son patron.
Votre revirement ne change rien, Madame Morval. Le témoignage d'une femme en faveur de son mari ne vaut pas...
Stéphanie Dupin hausse le ton.
Foutaise ! N'importe quel avocat !
À l'inverse, le timbre de la voix de Serenac s'apaise. Silvio, laisse-nous. Benavides affiche ostensiblement sa déception, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Il tasse une liasse de papier, la prend sous son bras, et sort du bureau 33, refermant la porte derrière lui.
Vous gâchez tout !
Explose aussitôt Stéphanie Dupin. Lorenz Serenac conserve son calme. Il s'est assis sur le fauteuil à roulettes et le laisse doucement glisser avec ses pieds tendus.
« Pourquoi faites-vous cela ?»«
Quoi cela ?»«
Ce faux témoignage. »
Stéphanie ne répond pas. Ses yeux levés glissent de Cézanne au donu de la femme rousse.
Je déteste Toulouse-Lautrec. Je déteste cette espèce de voyeurisme hypocrite.
Elle baisse les yeux. Pour la première fois dans le bureau, son regard attrape celui de Lorenz Serenac.
Et vous, pourquoi faites-vous cela?
Quoi, cela?
Vous concentrez sur cette seule piste. Traquez mon mari comme un assassin. Il n'est pas coupable, je le sais. Libérez-le.
Et les preuves?
Jacques n'avait aucun mobile. C'est ridicule. Combien de fois devrais-je vous le dire? Je n'ai jamais couché avec Morval. Aucun mobile. Et à l'inverse, il possède un alibi. Moi.
Je ne vous crois pas, Stéphanie. Le temps s'est arrêté dans le bureau 33.
Que fait-on alors?
Stéphanie marche dans la pièce à petits pas nerveux. Lorenz l'observe, en adoptant à nouveau sa position faussement décontractée, tête oblique et menton soutenu par sa main ouverte. Stéphanie prend une profonde inspiration, comme si elle se perdait dans la spirale du chignon roux sur le dos nu du modèle peint par Toulouse-Lautrec, puis se retourne soudain.
Inspecteur, que reste-t-il alors comme choix à une femme éplorée? Jusqu'où peut-elle aller pour sauver son mari? Combien de temps lui faut-il pour comprendre le message? Vous savez, inspecteur, ces romans noirs américains, ce genre de flic capable d'accuser un pauvre type dans le seul but de lui voler sa femme.
Non, Stéphanie. Stéphanie Dupin s'avance vers le bureau. Doucement, elle détache les deux rubans d'argent qui retiennent ses longs cheveux châtains. Elle les décoiffe avec délicatesse, tout en s'asseyant sur le bureau de l'inspecteur. Elle le domine de moins d'un mètre, mais s'il reste assis, il doit lever les yeux vers elle.
C'est ce que vous attendiez, n'est-ce pas, inspecteur? Vous voyez, je ne suis pas si gourde. Si je me donne à vous, tout sera terminé, c'est cela?
Arrêtez, Stéphanie.
Qu'avez-vous, inspecteur? Vous hésitez à franchir la dernière marche? Ne vous posez pas trop de questions. Vous l'avez prise dans vos filets, la femme fatale. Vous la tenez? Le mari est derrière les barreaux. Elle est piégée. Elle est à vous?
Stéphanie remonte doucement ses jambes, afin que sa jupe descende le long de sa peau nue. Un bouton du corsage blanc disparaît entre ses doigts. Des taches de rousseur explosent sur la naissance de sa poitrine, jusqu'au coton du haut d'un soutien-gorge dévoilé.
Steph, à moins que ce ne soit elle, la femme fatale, qui tire les ficelles depuis le début. Pourquoi pas, après tout?
Les yeux de Stéphanie se fendent en amande. Lorenz Serenac se surprend à y déceler le mystère oriental d'un lever de soleil indigo. Il doit se reprendre. Il n'a pas le temps de raisonner davantage. L'institutrice continue.
Ou bien eux, le mari et la femme, complices. Les diaboliques. Le couple infernal. Vous ne seriez que leur jouet, inspecteur.
Stéphanie, toujours assise, a posé ses deux pieds sur le bureau. La jupe de toile beige glisse en chiffon autour de sa taille. Un second bouton du corsage saute. Les aréoles des seins de l'institutrice se devinent sous la dentelle fine des sous-vêtements. Des gouttes de sueur coulent dans le creux de sa poitrine. Des gouttes de peur, d'excitation.
Arrêtez, Stéphanie. Cessez ce jeu ridicule. Je vais la prendre, votre déposition.
Il se lève et saisit une feuille de papier. Lentement, Stéphanie Dupin reboutonne son corsage, défroisse sa jupe retombée le long de ses jambes, les croise.
Je vous préviens, inspecteur, je ne vais pas changer d'avis. Je ne vais pas modifier une ligne à ce que je vous ai affirmé. Ce matin-là, le matin où Jérôme Morval a été assassiné, Jacques est resté au lit avec moi.
L'inspecteur écrit, lentement.
J'en prends note, Stéphanie, même si je ne vous crois pas.
Vous voulez d'autres détails, inspecteur? Vous souhaitez tester la crédibilité de mes affirmations? Si nous avons fait l'amour, dans quelle position? Ai-je joui?
Le juge d'instruction vous le demandera certainement.
Notez alors. Notez, Lorenz. Non, je n'ai pas joui. Nous avons fait cela rapidement. J'étais sur lui. Je veux un enfant. À genoux sur l'homme, c'est la meilleure des positions, paraît-il, pour avoir un enfant.
L'inspecteur continue de baisser les yeux. Note en silence.
Vous faut-il encore d'autres détails, inspecteur? Je suis désolée. Je n'ai aucune photographie, aucune preuve, mais je peux décrire.
Lorenz Serenac se lève lentement.
Vous trichez, Stéphanie.
L'inspecteur contourne le bureau, ouvre le premier tiroir et en sort un livre cartonné. Aurélien.
Je suis persuadé que vous trichez.
Il ouvre le livre à une page cornée.
Rappelez-vous, c'est vous qui m'avez demandé de lire ce livre d'Aragon. À cause de cette étrange phrase retrouvée dans la poche de Jérôme Morval. Le crime de rêver et la suite.
Je vous rafraîchis la mémoire, Stéphanie? Chapitre 64. Aurélien croise Bérénice dans les jardins de Monet. Elle fuit dans un chemin creux de Giverny, comme si elle voulait échapper à son destin. Aurélien la poursuit, la retrouve, haletante, adossée au talus. Vous me pardonnez, je crains de ne pas me souvenir du texte intégral. Je vais vous lire la scène.
Cette fois-ci, presque pour la première fois, Lorenz Serenac soutient le regard pourpre de Stéphanie.
Aurélien avançait vers elle. Il voyait sa poitrine soulevée, la tête renversée avec les cheveux blonds qui retombaient tout d'un côté. Des paupières battues, le cerne qui faisait plus troublant les yeux, et cette bouche tremblante. Et les dents serrées étaient félines, si blanches.
L'inspecteur avance. Il se tient maintenant debout devant Stéphanie. Elle ne peut se reculer, coincée sur le bureau. Lorenz progresse encore. Le genou de l'institutrice touche à présent la toile du jean. Elle sent le bassin de l'inspecteur, exactement à la hauteur du bas de son ventre. Il suffirait qu'elle décroise les jambes.
Serenac continue de lire. Aurélien s'arrêta. Il était devant elle, très près. Il la dominait. Il ne l'avait jamais vue ainsi.
Il délaisse un instant le livre.
C'est vous qui gâchez tout, Stéphanie.
Il pose une main sur son genou dénudé.
La chair frissonne, Stéphanie n'y peut rien. Elle ne parvient pas à empêcher le tremblement de ses deux jambes entortillées comme une glycine à un tuteur. Sa voix n'est pas plus assurée.
Vous êtes un drôle d'homme, inspecteur. Un flic, amateur de peinture, amateur de poésie.
Serenac ne répond pas. Quelques pages tournent dans ses mains.
Toujours le fameux chapitre 64. Quelques lignes plus loin, vous vous souvenez? Je vous emmènerai quelque part où personne ne vous connaisse, pas même les motards. Où vous serez libre de choisir, où nous déciderons de notre vie.
Le livre tombe avec son bras, le long de sa taille, comme s'il pesait une tonne.
Il laisse son autre main sur la peau lisse du bas de la cuisse qui tremble encore, longtemps, comme pour calmer le cœur affolé d'un nourrisson.
Il demeure là, silencieux.
Serenac, le premier, rompt le charme. Il se recule. Sa main se referme sur la feuille où il a consigné la déposition de l'institutrice.
Je suis désolée, Stéphanie. C'est vous qui m'avez demandé de lire ce roman.
Stéphanie Dupin passe la main devant ses yeux, entre larmes, émotion et lassitude.
Ne confondez pas tout. J'ai lu Aragon, moi aussi. J'ai compris. Je suis libre de choisir. Rassurez-vous, je déciderai de ma vie.
Si vous voulez savoir, Lorenz, je vous l'ai déjà dit.
Non, je n'aime pas mon mari. Je vais même vous offrir un autre scoop. Je crois que je vais le quitter. Cela a fait son chemin en moi comme un long fleuve, comme si les remous ces derniers jours ne pouvaient qu'annoncer une cascade. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout cela ne change rien au fait qu'il soit innocent. Une femme ne quitte pas un homme en prison. Une femme ne quitte qu'un homme libre. Vous comprenez, Lawrence? Je ne retire rien à ma déposition. Je faisais l'amour à mon mari ce matin-là. Mon mari n'a pas tué Jérôme Morval.
Sans un mot, Lawrence Serenac tend à l'institutrice la feuille et un stylo. Elle signe sans relire. Elle quitte le bureau. Serenac détourne les yeux vers les dernières lignes du chapitre 64 d'Aurélien. Il la regarda s'enfuir. Elle courbait les épaules. Elle faisait celle qui ne marche pas vite. Il était immobilisé par cet incroyable aveu. Elle mentait, voyons. Non, elle ne mentait pas. Combien de temps s'écoule avant que Silvio Benavides ne cogne à la porte? De longues minutes? Une heure? Entre, Silvio. Alors? Elle maintient sa version. Elle couvre son mari. Silvio Benavides se mord les lèvres. Cela vaut peut-être mieux, après tout. Il glisse une liasse de feuilles sur le bureau. Ça vient de tomber. Pélissier, le graphologue de Rouen. Il modifie sa déposition. Après avoir approfondi son expertise, il conclut que le message gravé dans la boîte de peinture trouvée dans le ruisseau ne peut pas avoir été écrit par Dupin. Le temps d'un suspense exaspérant, puis... Tenez-vous bien, patron. Selon lui, le message a été gravé par un enfant. Un enfant d'une dizaine d'années. Il est formel. Putain, murmure Serenac. C'est quoi encore ce bordel? Son cerveau semble refuser de réfléchir. Benavides n'a pourtant pas terminé. Il n'y a pas que ça, patron. On a aussi reçu les premières analyses du sang retrouvées sur la boîte de peinture. D'après elle, une chose est sûre. Il ne s'agit du sang ni de Jérôme Morval, ni de Jacques Dupin. Il continue de chercher. Serenac se lève, titube. Un autre meurtre? C'est ça que tu essayes de me dire? On n'en sait rien, patron. À vrai dire, on ne comprend plus rien à rien. Lorraine Serenac tourne en rond dans la pièce. Ok. J'ai compris le message, Silvio. Je n'ai pas d'autre choix que de relâcher Jacques Dupin. Le juge d'instruction va gueuler. Une détention de moins de 5 heures. Il préférera cela à une erreur judiciaire. Non, Silvio, non. Je vois bien ce que tu penses. Que je me suis planté dans les grandes largeurs. Toute cette mise en scène précipitée en bas du sentier de l'Astragale pour coffrer un type, et finalement toutes les preuves nous glissent entre les doigts quelques heures plus tard. Il faut le relâcher. Mais ça ne change rien à ma conviction, à rien. Jacques Dupin est coupable. Silvio Benavides ne répond pas. Il a maintenant compris que sur le terrain miné des intuitions de son patron, il n'y a aucune discussion raisonnable à avoir. Benavides repense pourtant à la somme des éléments contradictoires qui s'accumulent dans les colonnes de la feuille pliée qui ne quitte plus sa poche. Il ne peut pas y avoir une réponse simple à tous ces indices délirants, contradictoires. C'est impossible. Plus l'enquête avance, et plus Silvio a l'impression que quelqu'un se joue d'eux, tire les ficelles, s'amuse à multiplier à leur intention les fausses directions, afin de poursuivre en toute impunité son plan parfaitement orchestré. Entrez ! Lorraine Serenac lève les yeux, surpris que l'on frappe à son bureau à cette heure tardive. Il se croyait seul, ou presque, dans le commissariat. La porte de son bureau n'est pas fermée. Silvio se tient dans l'encadrement, un étrange regard dans les yeux. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Il y a quelque chose d'autre. T'es encore là, Silvio? Il consulte l'horloge sur son bureau. Il est plus de 18 heures. Putain, tu devrais être à la maternité à tenir la main de ta Béatrice. Et dormir aussi. J'ai trouvé, patron. Quoi? Serenac a presque l'impression que même les personnages des tableaux au mur se sont retournés. L'arlequin de Cézanne, la femme rousse de Toulouse-Lautrec. J'ai trouvé, patron. Nom de Dieu, j'ai trouvé.